podcast du Virage.
Bonjour, bienvenue dans l'épisode 18 du podcast du Virage. Ah mes amis, quelle saison! Nous enregistrons au lendemain d'une défaite en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Paris sort la tête haute de cette compétition, certes surclassée par le Manchester City de Pep Guardiola, mais non sans avoir livré une féroce bataille, commencée dans une éblouissante maîtrise technique des Parisiens en première mi-temps du match aller et finie dans un triste foutoir, la fin du match pathétique d'hier soir, que nous mettrons sur le compte de la frustration. La frustration, c'est un peu le sentiment qui domine aussi chez les supporters parisiens devant le peu de cohésion collective de leur équipe de stars. Sur la scène nationale, la saison ne manque pas non plus de piquant. Plombé par les 8 défaites enregistrées cette saison, dont 5 à domicile, le Paris Saint-Germain doit remporter tous ses matchs et espérer un faux pas du leader Lille pour garder sa couronne de champion. Et surtout, il s'agit de ne plus laisser filer de points pour garantir au moins l'accession directe à la Ligue des Champions, car Monaco n'est qu'à 4 points derrière et Lyon à 5. En Coupe de France, encore 2 matchs à gagner contre Montpellier, puis vraisemblablement Monaco. Les joueurs seront-ils restés mobilisés jusqu'au bout pour rapporter au moins ce trophée? Une saison extraordinaire, donc, qui pourrait bien s'achever sans aucun titre pour Paris. Les 5 matchs à venir seront décisifs et le suspense est haletant. Pour débattre et discuter de cette actualité riche, un casting exceptionnel aujourd'hui. Côté Virage d'abord, le boss en personne, Xavier Chevalier, est là. Bonjour Xavier.
Bonjour tout le monde.
Mathieu Sabag, alias Rabio Jacob, est là aussi. Bonjour Mathieu.
Salut tout le monde.
Voilà pour les voix que vous connaissez déjà. Voilà celles que vous ne connaissez pas encore. Il est de passage à Paris, ou plutôt à Montreuil, où nous enregistrons sur les terres de son enfance, où il a appris à aimer le PSG avant de partir s'exiler dans un sud lointain. Il est l'un des contributeurs du livre des 50 ans du club, coordonné par Virage, je le rappelle. Il écrit dans SoFoot et dans Nice Matin. Il parle aussi au micro de Bruno Salomon sur France Bleu Paris, qu'on salue au passage. Il est sans contexte le compte Twitter le plus drôle auquel s'abonner pour suivre le club. Autant dire qu'on est en famille. Bonjour Mathieu Faure.
Bonjour tout le monde.
Et merci d'être là. Mon premier a grandi comme Mathieu Faure dans le 93, du côté de Rosny-sous-Bois, avant de s'exiler au Havre, puis à Toulouse, puis à Rennes, avant de rejoindre son club de cœur l'été 2011. Cet été, celui de l'arrivée des investisseurs qataris. Bonjour Nicolas Duchesse.
Bonjour à tous.
Bienvenue dans le Virage.
Merci.
On est ravis de t'avoir. Mon deuxième est normand d'origine. Il a logiquement débuté à Caen, alors même que Paris s'intéressait déjà à lui à 17 ans, ai-je lu sur Wikipédia, même plus jeune. C'est finalement après des passages à Lille, puis à Lyon, qu'il a rejoint le PSG. Ancelotti dira de lui qu'il lui rappelle Andrea Pirlo, rien que ça. Et bonjour Mathieu Bodmer.
Bonjour à tous, ouais, je le rappelais de loin.
Ah, écoute, quand il avait fait cette sortie, tout le monde avait salué quand même que, voilà, il avait vu en toi...
On n'a pas la même carrière.
Ça c'est une autre question. Trois Mathieu, un journaliste drôle et deux joueurs de caractère. C'est le casting du jour pour notre grand retour après 6 mois d'absence. Le podcast du Virage, épisode 18, c'est parti. Bon les gars, ça fait déjà bien plaisir de vous avoir. Là, je suis un peu déstabilisé parce que normalement, j'ai Proch, Rejas, Grossman, vous les connaissez pas, mais ils sont... Voilà, c'est les têtes que j'ai d'habitude. Et puis là, j'ai des vedettes, un sniper de la radio et de Twitter à ma gauche. On va essayer de faire une émission qui se tient. L'actu est hyper riche. Alors d'abord, je suis désolé, on va pas faire un portrait de vous sur une heure, parce que l'actu du club est quand même très très riche. On va surtout parler de ça. Mais quand même, avant de parler du match d'hier soir et de la saison en cours, je vous propose 2 petits détours. On commence par ce son, donc un chacun. Ce son choisi par Xavier Chevalier. Et on commence par toi, Mathieu. B.
Christophe Jallet, le centre. La déviation de Bodmer en direction de Waro. C'est repoussé. Encore Bodmer, la frappe de Bodmer, l'égalisation, l'égalisation de Mathieu Bodmer, l'ancien Lyonnais. Il inscrit son tout premier but sous les couleurs du Paris Saint-Germain à quelques minutes de la fin, à 5 minutes du coup de sifflet final. Et bien voilà, Bodmer qui égalise un partout, le match complètement relancé ici à Gerland.
Je m'en rappelle.
Tu t'en rappelles?
Ouais.
C'est un sacré but. J'invite chacun à aller le voir en vidéo. Dans la vidéo, on voit clairement que tu t'adresses au banc lyonnais. On a même l'impression que tu as envie d'aller parler d'un peu plus près à Claude Puel, que tes coéquipiers te retiennent en même temps qu'ils te félicitent. Tu voulais partager ta joie avec ton ancien coach?
Non, c'est une longue histoire d'amour avec Claude Puel. Moi, je l'ai eu dans 3 clubs, je l'ai eu à Lille, c'est lui qui m'a lancé en Ligue 1, puis après il m'a rejoint à Lyon, et puis on s'est retrouvé à Nice après cet épisode-là. On avait échangé, discuté pour mettre tout à plat. Mais quand je suis parti de Lyon au PSG, ça a été très compliqué. Mon transfert à Paris était compliqué, a duré beaucoup de temps. Et c'était la seule personne qui mettait un veto à ce que je parte au PSG à l'époque. Donc voilà, après le football il est comme ça, le premier but que je mets avec le PSG c'est face à Lyon évidemment. Si tout le monde se rappelle, c'est un jour où il était annoncé que s'il perdait, il pourrait être démis de ses fonctions par Jean-Michel Aulas. Donc bon, on appelle ça le retour du ballon.
Une petite question, ouais. Pourquoi il ne voulait pas que tu partes? Parce qu'il il comptait sur toi ou...
Non, Claude Puel, il n'aime pas beaucoup le PSG. En étant honnête et sincère, même quand j'étais à Lille, grosso modo, il me disait toujours « Tu pourras partir à Lyon, mais pas à Paris. » Quand les offres arrivaient du PSG, il ne voulait pas que j'y aille. Alors la question, il faudra peut-être lui poser un jour à lui, si tu as l'occasion de le croiser dans le Sud. Mais non, c'était compliqué. C'était compliqué. Puis à Lyon, c'était le manager général, donc il n'y avait pas de contre-pouvoir, c'est lui qui décidait de tout. Moi, j'avais parlé avec le président Aulas, qui m'a dit « Il n'y a pas de souci, si tu veux y aller, tu y vas, tant qu'il nous paye le transfert. » Moi, je ne m'oppose pas à un départ, et Claude Puel, il ne voulait rien savoir. Donc c'était un bras de fer un petit peu long, mais j'ai gagné.
Et malgré ça, tu as accepté de le retrouver après à Nice?
Oui, après j'ai fait mes 3 saisons à Paris, avec un prêt à Saint-Etienne au passage, et l'été 2013, le club ne comptait pas sur moi, il fallait que je parte, et Claude Puel, il a voulu que je vienne à Nice, mais on s'est rencontrés, je suis descendu à Nice début août, je crois, avant qu'il joue la Coupe d'Europe contre Limassol, pour voir comment on pouvait retravailler ensemble. Voilà, donc on a réglé un petit peu les 10 ans qui venaient de se passer avec les problèmes qu'on avait pu avoir tous les deux. Il n'est pas rancunier, je ne suis pas rancunier.
Oui, c'est hyper impressionnant.
On a eu une bonne discussion en disant voilà ce qu'on reprochait l'un à l'autre. J'ai beaucoup parlé, parce que c'était la première fois où ce n'était pas mon coach. Donc on avait une discussion entre hommes, entre guillemets.
Ouais, entre égaux, ouais.
Et j'ai pris la parole, j'ai dit voilà, je vous reproche à Lille telle chose, à Lyon telle chose. Donc il m'expliquait aussi sa version des faits, parce que moi, j'avais que ma vision de joueur. Je ne connaissais pas tous les tenants et les aboutissants aussi de toutes les décisions, parfois dans les clubs. Et puis après, on est reparti ensemble. On a fait 2 ans à Nice, si je ne dis pas de bêtises. Oui, 2 ans. Après, c'est Lucien Favre qui est arrivé. Donc, j'ai eu 9 saisons quand même.
Ah oui, quand même.
Et du coup, la décision de ne pas te laisser partir à Paris, elle était complètement irrationnelle. Ah, peut-être
non,
qu'elle est fondée sur des choses
après,
que tu ne veux pas révéler.
Après,
avec Claude
Puel, on a une relation qui est vraiment bizarre. Pour être totalement honnête, j'ai eu 9 saisons. Donc, c'est énorme. On a dû se parler 10 fois.
Ah oui, d'accord.
C'est un taiseux, de toute façon. C'est,
ouais,
c'est pas un mec qui parle beaucoup,
aussi
il est dur à percer.
Voilà. Et puis moi, un peu pareil. Deux mecs têtus, donc un peu compliqué. Mais il m'a beaucoup fait jouer. Voilà, à tous les postes, dans tous les clubs. À chaque fois, j'étais apte et disponible, je jouais. J'ai pas de doute sur le fait qu'il m'apprécie, en tant qu'homme et en tant que joueur. Sinon, bon, on serait pas revenu à Nice, on n'aurait pas très autant de temps. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a du mal à échanger avec certaines personnes. Voilà.
Et surtout, Saint-Etienne, c'est un bon cas. En plus, en ce moment, tu sens qu'il a du mal parfois avec certains cadres,
Exactement.
Certains joueurs.
Ouais. Et... À Nice, ça s'est bien passé parce qu'il y avait Didier et moi, entre guillemets, entre cadres. Il n'y avait pas trop d'anciens, donc on était ses relais privilégiés. À Lyon, ça a été très compliqué, par exemple. Où tu avais investi avec beaucoup d'ego, beaucoup de joueurs connus. Ça a été dur.
À Nice, vous habitez pas loin au début, en plus, à la Turbie, je crois.
Ouais, j'habitais. C'est pas la même route, parce que moi, j'étais au-dessus de l'Est, moi, d'un coup.
Ouais.
Et lui, mais à vol d'oiseau, c'était même pas 200 mètres, quoi.
Ouais, voilà. Vous avez pas fait de barbecue ensemble?
Non, il avait dit ça, le premier truc. Non, mais après, ça, c'est le hasard. Mais après, tu sais, même quand je suis à Nice, des fois, je raconte l'anecdote. Je re-signe, parce qu'au début, j'arrive pour 2 ans. La première saison, ça se passe plutôt pas mal, avec le président, tout le monde est content. Et donc, je re-signe mon contrat. 2 semaines après, il m'attend après l'entraînement. J'étais avec mon fils, on jouait, il m'a attendu une demi-heure le temps que je termine. Et il me dit, tu sais que j'ai poussé pour que tu re-signes. J'ai dit, je m'en doute, vous êtes manager. Il me dit, je suis content. Et il s'en va. Je lui dis, voilà. Ça résume notre relation. Tu vois. Quand on se parlait, c'était qu'il y avait un gros problème. Donc en général, on se disputait. Ou que l'équipe, vraiment, ça n'allait pas, qu'il fallait remettre tout dans le droit chemin. Des trucs importants, mais tant que ça allait bien, en fait, chacun faisait son chemin et on ne se parlait pas, tu vois. Quand je revenais de blessure à Nice, c'était Fred Joria qui me disait « Ce serait bien que tu joues avec la réserve ce week-end pour prendre du rythme. » Le coach a demandé. Je me dis, bah, tu diras au coach. Mais c'était, voilà, c'est une relation un peu compliquée.
Après cette longue parenthèse Claude Puel, chacun, vous avez un souvenir de Mathieu sous le maillot du PSG? Pas forcément un tour de table complet, mais je sais pas, Mathieu, je te regarde.
Bah, j'en ai plein parce
Mathieu
que
F.
j'ai un souci avec Mathieu, entre guillemets. C'est, j'idolâtre très peu de joueurs. Il y a Javier Pastore, et j'ai toujours aimé Mathieu, parce que des trucs tout cons, tu vois, il s'appelle Mathieu comme moi, on est né la même année, et j'aimais son style de jeu, tu vois, pour moi c'était un peu le Riquelme français, j'aime comment il joue au foot, Et ça fait 30 ans que je suis le club, j'ai demandé des maillots à des joueurs, à aucun joueur en fait, sauf à un, c'est à lui. Il est venu, il me l'a donné. Ce sont un beau maillot blanc, 12, quand il est venu à Nice. Et franchement, c'est le seul maillot que j'ai d'un vrai joueur. Et je le chéris, tu vois. C'est un joueur. Bah, je connais maintenant l'homme que j'apprécie énormément, mais j'aimais beaucoup le joueur. Et si je dois garder un souvenir de lui, c'est le 4-4 à Lyon et le dernier but, la galette qu'il met à Oaro sur une touche. Et je trouve que c'est un geste qui lui ressemble. Et moi, j'étais très heureux qu'il signe à Paris. J'étais triste qu'il parte, mais après, voilà, c'est la vie. Et c'est vraiment un mec en or, sur et en dehors du terrain, quoi.
C'est gentil. Après, je suis parti à Nice, donc ça va, on s'est rapprochés.
Là, vous avez fait des barbecues ensemble.
Non,
on s'est vu, mais c'est. Puis j'ai fait un livre sur Mario Balotelli dans lequel il a œuvré, il m'a aidé. Et c'est quelqu'un, il a raison, il est têtu, tu vois, dans le sens où moi j'étais journaliste au départ et quand il arrive de Paris pour jouer à Nice, t'as les mecs du Parisien, ils disent ah, tu vas voir, c'est un con, il parle pas, etc., etc. Et en fait, Mathieu, faut réussir à percer la carapace, tu vois. Et quand tu arrives après et que t'es réglo avec lui, bah, il t'oublie pas, il te met pas de douille, il est entier en fait. C'est juste, voilà, c'est faut être honnête avec lui et puis il te rend la pareille, quoi.
Exactement.
On va passer à toi, Nico. Xavier, il a sélectionné cet extrait.
Pas là-dessus, Bruno, il reste même moins d'une minute, vous l'avez dit. Ravière, on la garde au point de corner.
Javier Pastore qui arrive à éliminer 1-2. Ouais, il prend des bons coups dans la cheville, mais il reste debout. Allez, donne-la. Il rentre dans la surface de réparation. Javier Pastore, il va frapper.
Goal. Ah, il est incroyable. Ah, c'est l'énigme.
Goal.
C'est un mystère, ce joueur.
Javier Pastore. Javier. Mais c'est quoi ce but, Javier? Goal. Oh, le parc est en transe, 93e minute de jeu, oui, oh le but de Javier Pastore, mais qu'est-ce que c'est que ce but, Pierre? Pierre,
c'est alors, extraordinaire. Bon, c'est donc un but de Javier Pastore. Xavier va nous dire pourquoi tu as choisi cet extrait.
Alors déjà, ça faisait une belle transition puisque Mathieu parlait de Javier juste avant, ouais. Mais ça je savais pas, c'était pas prévu au programme. Non, pourquoi j'ai choisi cet extrait? Parce qu'en fait, le but en soi est magnifique. Mais je crois que l'image que je préfère revoir aujourd'hui, c'est les images du banc parisien sur le but. Parce qu'on voit Marco Verratti qui sent le truc arriver et on te voit derrière aussi en train de te lever, te préparer. Et sur le but, on te voit exploser un truc de maboule. Et là, on se dit, il n'y a qu'un mec qui est supporter du PSG pour réagir comme ça, quoi. Et donc, cette image, je l'ai mise aussi dans ma tête, mais je voulais qu'on en reparle de ce but parce que nous, on est supporters, on voit le match à la télé, mais voir ce but sur le banc, au bord de la pelouse, comment t'as vécu le truc, quoi? Parce qu'il fait un truc de malade mental, quand même.
Ouais, c'est vrai que Javier fait un truc de fou à ce moment-là. Et c'est cette joie est plus que forte, parce qu'au moment où il met ce but, on se dit, là, on prend une vraie option pour la qualif, même s'il y a le match retour derrière. Malheureusement, on connaît l'issue.
Il a été annulé.
Ça finira par un tibia de Dembaba, malheureusement.
Exactement. Mais du coup, oui, c'est vrai que ce but contre Chelsea, dans un stade plein, dans cet univers de la Ligue des Champions qui est si particulier, c'était monstrueux. Ça me met encore des frissons aujourd'hui rien que d'en parler. Et c'est vrai que quand j'étais sur le banc, Je pouvais pas rester assis et juste être spectateur. Je suis partenaire, je suis coéquipier, je suis supporter et je vis les choses avec énormément de d'émotions, de sensations et il faut que j'explose.
Ça donne l'idée d'une question qui vous concerne tous les deux parce que vous avez été des joueurs du Paris Saint-Germain, mais vous êtes aussi des supporters du Paris Saint-Germain depuis que vous êtes gamins, je crois, tous les deux en fait. Est-ce que ça change quelque chose de jouer pour son club? J'imagine que oui, mais même vis-à-vis d'autres joueurs du vestiaire qui eux sont là bah, comme un job, qui sont pas des gamins qui ont rêvé de ce maillot, qu'est-ce que ça change en fait de jouer pour son club?
Ça change. Je pense que ça change beaucoup. Nous, on a été imprégnés par ce club. Moi, dès que j'ai eu la fenêtre qui s'ouvrait pour éventuellement être pro, l'objectif pour moi, c'était un jour de signer à Paris. Donc, le jour où je suis arrivé, bah, j'avais accompli quelque chose, mais je voulais vraiment participer à l'histoire du club, vivre des moments forts. Et c'est vrai qu'on ressent les choses d'une façon différente par rapport notamment aux étrangers qui viennent ou à des joueurs qui sont de passage, même si on l'est tous au final. Mais on vit, par exemple, un classico, on le vit différemment. Parce qu'on a connu ces ambiances-là depuis qu'on est gamin à la télé. Là, d'y participer, c'est quelque chose de fort pour nous et forcément, on le vit différemment.
Et ça vous est arrivé de remotiver des joueurs, justement, qui vous paraissaient peut-être pas assez à fond, en leur disant « Attends, tu te rends pas compte, t'es au PSG, pour moi, ça veut dire quelque chose ». Vas-y à fond ou d'avoir une occasion comme celle-là.
On le fait peut-être de façon un peu plus véhémente, mais oui. mais en soi, peu importe le club où on est, quand on sent qu'on a des partenaires qui sont un peu en dedans, on essaie de les motiver. Mais après, lorsqu'on est à Paris et pour nous qui avons été supporters avant d'être joueurs, on a ce petit supplément à l'intérieur qui fait qu'on donne encore un peu plus.
Mathieu, il y a une question qui m'a été glissée par Grégory Proch, qui n'est pas là, qui fait partie de la team, qui était de te demander, mais ça vaut pour tous les deux, hein, c'est quoi de jouer pour d'autres clubs, notamment en France, alors que tu étais un supporter du Paris Saint-Germain assumé, déclaré depuis le début. Est-ce que ça t'a été reproché? Il y a eu des moqueries?
À Lyon, oui.
À Lyon.
Je pense
qu'en plus, Lyon, c'est un club avec beaucoup de...
Je pense le seul club où ça m'a été reproché. Bon, après, j'ai fait un coup de génie quand même, c'est-à-dire qu'à OLTV, ça fait 3 mois que je suis là, ma première phrase, c'est « Moi, mon rêve, c'est de jouer au PSG ». Et avec Bart Ruzak, tout le monde doit connaître. Et c'est pour ça qu'avec Bart, on s'apprécie. Il me dit « Putain, t'es le seul mec qui vient, qui pose ses couilles, qui le dit normal ». Je dis « Mais je vais pas mentir, je sais pas faire ». Alors après, les supporters, ça n'a jamais été le grand amour avec eux, du fait notamment de cette phrase-là. Mais après, dans les autres clubs, non, il n'y a pas eu trop de soucis. Je veux dire, tout le monde savait. Après, je faisais la part des choses. Quand je jouais contre le PSG, notamment avec Nice, j'ai déjà marqué. Avec Lille, j'ai marqué, etc. Ça reste mon travail avant tout. Et représenter le club qui m'a fait venir, qui me paye, avec qui je joue au quotidien. Mais après, jouer au parc avec un autre maillot, c'était toujours particulier. Tu vois, tu dis... Voilà, un jour j'aimerais bien y être, et puis le jour où tu rentres sur le terrain avec le maillot du PSG, ça part. Tu dis, on a réussi.
Alors toi Nicolas, t'es arrivé dans des circonstances particulières, parce que t'es recruté pour être le gardien numéro 1, les Qataris arrivent cet été-là, chamboulent tout, Ancelotti va arriver, enfin toi ça commence avec Comboiré, et du coup recrutement, enfin le club change de dimension au moment où t'arrives. Comment t'as vécu ce truc-là?
C'est particulier parce que
c'est quand je signe, c'est de ma faute.
C'est toi qui as fait venir les Qataris.
Non, il va te dire.
Non, c'est pas de sa faute. Non, c'est particulier parce que quand je signe à Paris, tout est déjà clair. C'est-à-dire que je sais que le Qatar va arriver. Le Qatar sait que je signe à Paris. Donc en fait. Rien n'est officialisé
mais quand
au point
tu signes,
de vue du rachat.
Sais.
Ah oui, d'accord. Mais, donc c'est pas une surprise.
Non, parce que à l'époque c'était Leproux, le président, et il m'explique la situation. Il me dit que d'ici une dizaine de jours, il va partir, que c'est le Qatar qui reprend. Donc je suis au courant de tout. Je pouvais pas imaginer que le club allait prendre une telle dimension, mais en tout cas ça pour moi c'était quelque chose que je maîtrisais pas. C'était des négociations de club, mais ça rentrait pas forcément dans le sportif. Et dans le sportif, j'avais discuté à l'époque avec Alain Roche, mais j'avais surtout discuté avec Comboiré, et j'avais donc cette certitude de commencer la saison titulaire. Et c'est ce qui était prévu, même avec l'arrivée du Qatar. Le seul problème qui s'est passé, c'est que quand Leonardo a signé à Paris, il n'était pas forcément fan de mon jeu. Il avait des doutes là-dessus. Et à cette époque-là, on n'avait pas vraiment de doublure. J'étais tout seul avec Alphonse Areola, donc lui qui était très jeune à ce moment-là. Il fallait une doublure. Comboiré voulait prendre quelqu'un pour me suppléer, et Leonardo était plus du côté on prend quelqu'un, la concurrence, le machin. Donc bon, après ça, c'est, il y a pas de souci là-dessus. Le gros problème que j'ai eu, c'est qu'une semaine avant le début du championnat, je me blesse à la cheville d'une façon assez sale, et du coup je me retrouve out pendant un mois et demi. Et c'est là que Leonardo a enclenché la, la vitesse. Et il a dit, on va pas commencer avec Alphonse qui est trop jeune, qui a pas d'expérience. Et ils ont été chercher Sirigu.
Est-ce que tu penses que s'il y a pas cette blessure à la cheville, tu débutes contre Lorient, l'histoire elle peut être différente?
Je suis sûr que s'il y a pas cette blessure, je commence ce championnat. Mais moi, c'est tout ce que je demandais, en fait. Après, on peut aimer, pas aimer mon jeu, c'est pas un souci. Juste, au moins, avoir ma chance. Je suis pas bon, je suis remplacé, comme ça peut l'être pour n'importe quel joueur. Mais ça, je me sentais assez fort pour supporter la pression à ce moment-là. J'étais vraiment confiant par rapport à mon jeu. J'étais bien dans le groupe, je m'étais bien intégré. J'avais pas de soucis là-dessus. J'avais vraiment hâte justement que le championnat commence. Et je suis persuadé que s'il n'y a pas cette blessure, Antoine Combaré me fait débuter.
Et à quel moment il y a une sorte de bascule où tu te dis, bah, pour le 1, ça va être compliqué, mais je vais rester en 2 et je vais voir ma carrière autrement dans ce club? Tu le dis ça ou pas du tout?
Non, au début, quand je reviens, je veux récupérer ma place. Après, je me rends compte assez rapidement que ça ne sera pas possible parce que j'ai une discussion avec Antoine Comboiré et il m'explique que Leonardo a dû donner des garanties à Sirigu pour le faire venir. Et que tant que Sirigu n'était pas en méforme, j'avais aucune chance de récupérer mon poste. Donc, début, ça a été compliqué. Et en fait, le changement s'est vraiment fait à la fin de la saison, où là, j'ai le choix de rester ou de partir. Et à partir du moment où je décide de rester à Paris et de pas vivre sur cet échec et de pas ruminer cette déception de blessure, enfin voilà, et puis surtout on n'a pas eu ce titre de champion dans la première saison, donc voilà, je veux pas partir de Paris sans avoir gagné un titre, sans avoir connu ça, et je décide de rester en sachant que là je serai second et l'approche est complètement différente, et après je m'épanouis dans ce rôle, même si c'est pas évident, mais j'ai passé vraiment des super belles saisons, alors que la première a été un peu compliqué parce qu'il y avait un peu de frustration.
C'est ce qu'on sent aussi, on a l'impression que tes autres saisons après, t'es important dans le vestiaire, t'es, même en tant qu'homme, t'es épanoui, apaisé, et que t'as trouvé quelque part ton équilibre.
Ben, en fait, je sais où je vais. La première saison, je suis toujours dans l'optique de récupérer ma place, dans cette envie de rejouer, et puis cette frustration toujours qui est là, parce que j'aurais dû jouer, j'ai pas joué, et puis finalement il y a ce changement, et puis il y a aussi ce changement de staff à Noël, donc voilà, première saison un peu particulière, même si dans le vestiaire tout se passait bien, même si j'étais heureux avec mes nouveaux partenaires, j'ai tissé des super belles relations, mais voilà, c'était un peu particulier. À partir du moment où je décide de rester et d'accepter ce rôle de doublure, les choses sont claires, et là je me concentre sur ce rôle qui est complètement différent d'un gardien titulaire ou même d'un troisième.
Et un an après, tu fais un barbecue avec David Beckham, quoi.
Il n'y en a pas eu qu'un.
Oui, c'est vrai que David Beckham a débarqué cette année-là. Montpellier est champion, mais Beckham...
Il y en a d'après.
Non, il y en a l'année d'après. Après.
Voilà pour cette petite intro longue, mais il fallait quand même qu'on parle un petit peu de vous. Si vous voulez, on va débriefer un petit peu de l'actualité, parce qu'elle est riche. D'abord, la Ligue des Champions, hier... une demi-finale retour à Manchester City. Bon, j'ai dit en intro que il me semble que City a quand même surclassé Paris sur les deux matchs. Je pense que c'est juste la vérité. Notamment sur la dimension collective, parce qu'individuellement, on a des joueurs exceptionnels. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous avez vécu cet aller-retour? Puis après, on parlera peut-être de la campagne Ligue des Champions dans son ensemble, mais déjà sur cette sortie en demi. Mathieu,
complètement d'accord avec toi. Je pense que City est au-dessus. City... On a fait une belle saison, on l'a vu en Angleterre, elle a mal démarré, mais depuis c'est une machine formidable. Guardiola, on sait comment ça joue, etc. Mais il a été bon tactiquement.
Alors qu'il avait souvent merdé un petit peu tactiquement, comme contre Lyon l'année dernière.
Ouais, sur les gros matchs de Champions League, en général, il s'était raté. Et là, contre le PSG, il a fait des jeux le PSG. Quand tu donnes le ballon au PSG en Champions League, 9 fois sur 10, tu gagnes. Ils ne veulent pas avoir le ballon. Ils ne veulent pas avoir la possession. Le PSG, c'est... Pourquoi ils battent Barcelone et Bayern cette année? C'est parce qu'en transition, ils sont extraordinaires. Verratti, Neymar, Mbappé, tu peux pas défendre. Mais là, au premier match, il a fait quoi? Il s'est mis 30 mètres de ses cages au démarrage. Montrez-nous comment vous avez la possession. Et tout le monde a cru que la première mi-temps, la semaine dernière, a été extraordinaire. Mais au final, t'as pas beaucoup de situations. tu te crées pas trop de situations.
C'est là qu'on perd la qualif, sans doute. C'est de
t'arrives à
maîtriser cette première mi-temps sans marquer.
4-5 fois, t'arrives aux 20 mètres, tu frappes pas, c'est contré. Mais en fait, City, ils attendent que ça. Et à un moment donné, ils t'usent. Parce que techniquement, parce qu'ils sont malins, parce que bah, De Bruyne, il rate pas une passe. Foden, c'est un joueur extraordinaire. Et Pique Marès, quand c'est dans la surface, bah, voilà, il rate jamais la cible. Et que nous, tu te reposes...
Même quand il y a un mur, il ne rate pas la cible, ce con.
Non, lui, il n'y a pas... Tu vois, ce qui tue devant, Marais, c'est... Bon, après, c'est toujours, c'est le PSG, hein. Soit c'est un ancien joueur de Paris, soit c'est un mec de l'Île-de-France qui élimine le club. C'est comme ça, c'est... ça, c'est pas une légende. Mais je pense que cette double confrontation, elle a pointé du doigt le fait que, collectivement, le PSG est faible, en fait. Si Neymar n'est pas en grande forme, si Mbappé n'est pas en grande forme, tu t'en sors pas. Et pourtant, Di Maria a fait un premier match très très bon, etc. Mais City, t'as l'impression, tu vois, c'était Cancelo, après il a changé de latéral, Rodri n'était pas là hier, c'était Fabinho, il joue sans attaquant de pointe. C'est pas très grave en fait les joueurs qui sont sur le terrain. Oui, il faut que De Bruyne soit là, c'est plus facile, mais je veux dire, j'ai vu des matchs en Angleterre, quand De Bruyne n'est pas là, il joue pareil. Mais Bernardo Silva, Mahrez, voilà. Ferran Torres la semaine dernière, Agüero, qui tu veux, c'est le collectif. City, c'est une formidable équipe qui joue très très bien au ballon. Ils ont leur automatisme. Le PSG, le problème, c'est que tu ne sais pas si c'est une équipe de possession. C'est quoi le but quand ils ont le ballon ? Est-ce que, oui, ils sont forts en transition, on le sait, mais comment tu joues pour te mettre dans les meilleures dispositions ? Et c'est le problème depuis quelques saisons. Franchement, depuis Laurent Blanc, pour moi, perso, je trouve que tu n'as plus d'identité de jeu, entre guillemets. Sous Laurent Blanc, ça jouait très bien au ballon. Unai Emery, il est passé, personne ne s'en rappelle, entre guillemets, de ce qu'il a voulu proposer. Tuchel, on voit ce qu'il fait à Chelsea.
Ben oui, c'est ça. C'est que le jeu collectif, Emery et Tourelle, ils montrent qu'ils sont plutôt adeptes d'un jeu collectif qui est bien huilé.
Mais à Paris, ça ne marche pas. Donc et après, il faut se poser les questions pourquoi. Ouais. Est-ce que tu as trop des individualités trop fortes et que tu fais toute l'équipe autour d'eux en disant... Moi, le PSG aujourd'hui, quand je le regarde, Champions League, encore plus qu'en championnat, c'est une pièce en l'air. Tu pries pour que Neymar et Mbappé soient dans un grand jour.
Et ça, c'est pas du coaching.
Ben non, c'est enfin, pas du coaching. C'est pas, et City, elle est là, juste différencière. C'est-à-dire que le mec, il se dit, ben voilà, si De Bruyne n'est pas là, ou si Agüero n'est pas là, ou peu importe, on va la remplacer collectivement.
Après, c'est un collectif à 2 milliards quand même, City. Ouais, c'est...
Ils ont, on en a deux, ils ont mis des moyens. Pour 400 millions aussi.
Ouais, ouais, bien sûr. Mais c'est justement ça. C'est-à-dire que toute l'équipe a coûté très cher.
Oui, toute l'équipe.
On a misé sur deux joueurs, je suis d'accord avec toi.
Mais après, deux milliards sur une décennie.
Ouais. Bon, tu pourrais appliquer ça au Liverpool de Klopp qui gagne aussi. Il n'y a pas de grande vedette dans ce club. L'effectif coûte beaucoup moins cher.
Là, je suis d'accord. Ouais.
Et ce qui les fait gagner, c'est le
parce que le niveau moyen du joueur City, il est plus élevé que le niveau moyen du joueur du PSG. Ouais. Or, les 3-4 stars. Quoi.
Après, c'est le recrutement. Comment tu le fais ?
Voilà.
Alors, oui, ils sont capables de mettre 80 millions sur Ruben Dias. Et je pense que c'est le meilleur recrutement qu'ils aient fait depuis très longtemps. On est d'accord avec ça, vu les matchs qu'il fait en ce moment et depuis le début de saison. Mais ils n'ont pas pris des attaquants. City, c'est une équipe qui a dépensé énormément d'argent sur les défenseurs depuis quelques saisons. Ou des milieux défensifs, Rodri, c'est 80 millions aussi.
Parce que c'est Stone, là qu'il se faisait prendre. Cher,
c'est là qu'il se faisait prendre. C'est-à-dire qu'il a équilibré son effectif en se disant on a pris un gardien, Ederson, ça tient la route. On a pris des défenseurs, t'as eu Mangala, t'as eu Laporte qui sont arrivés pour des grosses sommes. Ça a marché moyennement. Ils ont pris Ake, Ruben Dias. Bon, Ake s'est blessé. Il relance Stones aussi, quand même, cette saison. Il prend Rodri pour stabiliser le milieu, ce qui coûte cher. Cancelo, il ne prend pas d'attaquant.
Et il a Agüero.
Ouais, mais il ne fait plus jouer. Quasiment depuis un an, Agüero, il joue très peu.
Parce qu'il joue sans neuf, il adore jouer sans neuf. En fait.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'est pas dit il me faut un attaquant pour gagner les matchs. Il dit non, d'abord, on va construire une défense, des milieux de terrain, un collectif, un état d'esprit. Et après, devant, j'ai quand même des joueurs qui sont capables de faire la différence. Parce que Mahrez, il est capable à tout moment, Phil Foden, il est capable.
Est-ce que ce n'est pas moins politique aussi ? C'est-à-dire, au PSG, tu sais qu'il y a quand même une recherche commerciale de signer le gros nom. Est-ce qu'il n'y a pas moins cette problématique à City ou dans d'autres clubs comme Liverpool dont tu parlais tout à l'heure, où tu peux te dire, je peux miser 80 millions sur un mec qui n'est pas sexy, parce que finalement, enfin pas sexy,
la star de réputation. La star de City, c'est Guardiola.
Ouais.
Ouais.
Mais après, c'est toujours pareil. Est-ce que tu pars dans une optique où tu fais que du commercial, marketing, et tu dis, bon, sportivement, on va s'en sortir quand même, on sera sûrement champion de France, même si cette année, ça risque d'être compliqué. On a un parcours parce qu'on a quand même des joueurs qui sont capables de faire la différence sur des matchs. Ou est-ce que tu dis, je vais investir sur un gardien, un défenseur central.
Moi, je suis, tu prêches à convaincu. Hein,
pour gagner une compétition.
J'aimerais énormément qu'on fasse ça. Mais
je pense que le gardien, on l'a, c'est bon.
Et je pense que le gardien, on l'a, mais à un moment donné, il a de l'âge aussi. Tu vas avoir une succession dans un an, deux ans, etc. Même si c'est aujourd'hui extraordinaire. Et je pense qu'il est. C'est un peu l'arbre qui a caché la forêt quand même depuis un petit moment, parce qu'il a fait des arrêts incroyables. Mais la question, elle va se poser cet été, avec les prolongations de joueurs ou pas. Si t'en as un des deux qui part, ou les deux, ou peu importe, il y a des postes clés où il faut que tu recrutes cette année. Obligatoirement.
Latéraux.
Et ça va coûter très cher. La vérité, elle est là, c'est que tu, si tu veux rivaliser avec des City, il va te falloir des latéraux de très très haut niveau. Quand tu vois Walker hier, Walker c'est 40 ou 50 millions à l'époque, mais ça fait 5-6 ans qu'il est au club, mais c'est, tu sais que c'est fiable. Le mec, il peut jouer tout le week-end, il fait toujours les mêmes matchs, il fait son travail. Voilà.
Est-ce que c'est une question de joueur que tu recrutes ? Voilà, la question, enfin, ce qui me semble, c'est que quand tu vois c'est justement ces coachs qui sont succédés, qui sont des mecs qui font bien jouer leurs équipes, que ce soit Emery, on voit qu'il va probablement être en finale de l'Europa League. Tourelle, il peut potentiellement ce soir être en finale de Ligue des Champions, ou en tout cas en demi, et son équipe joue bien. Alors certes, à Chelsea, il n'y a pas des peintres, hein, il y a des super joueurs, mais. Et en fait, à Paris, ça ne prend pas. Et donc, c'est quoi votre avis par rapport à cette idée que peut-être que d'avoir ces deux totems-là, parce que le match de Neymar hier, il est quand même pas, il est pas bon, quoi, et qui, sur qui tu ne peux pas toujours compter, est-ce que ce n'est pas le plus gros problème, finalement, de ne pas pouvoir en faire entrer une logique collective parce que tu as des mecs qui ont du mal à rentrer dans la logique
après, collective. C'est le projet que tu as choisi, c'est ce qu'a dit Tourelle, c'est que tu fais un peu de politique à Paris. Mmh. C'est que bah, tu as deux têtes de gondole qui te permettent d'avoir une aura internationale, d'être connu jusqu'en NBA, d'approcher Jordan, de faire la couverture de FIFA. C'est un club qui, à 10 ans, n'était même pas le plus célèbre en France. Aujourd'hui, bah, c'est une franchise, c'est une marque, c'est un modèle. Et tu as sacrifié un peu une assise collective qui te permet d'avancer avec plus de sérénité en donnant les clés de ton camion à deux mecs individuellement extraordinaires, mais qui, comme tout joueur, sont capables de temps en temps d'avoir des coups de moins bien ou ne peuvent pas te porter une équipe sur une compétition aussi importante que la Ligue des Champions tous les pendant un an. C'est compliqué. Moi, ça me fait penser un peu aux Houston Rockets de James Harden. C'est que tu as un joueur qui est extraordinaire individuellement, qui en saison régulière va mettre 50 points, va être énorme, va faire des stats. Mais quand vont arriver les playoffs, tu vas tomber contre une équipe qui est peut-être sur le papier moins sexy ou qui n'a pas un mec aussi fort que James Harden, mais qui est plus complète, qui sait pourquoi elle a le ballon, pourquoi elle joue, ce qu'elle veut faire, et puis bah, tu te fais sortir à la régulière. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est se poser cet été. Comme l'a dit Mathieu, bah, les deux mecs qui sont en fin de contrat en 2022, il faut acter très vite ce que tu fais avec eux. T'as le droit de t'en séparer, c'est pas grave. Hein. Je veux dire.
Justement, est-ce que c'est un truc que vous souhaiteriez, vous, par exemple, que, allez, on vend Neymar et Mbappé, ça fait quand même normalement un petit peu de pognon, et on mise plutôt sur un projet de jeu, sur un plus long terme, avec des joueurs peut-être moins clinquants et plus disciplinés pour rentrer dans une logique collective.
Moi, j'ai quand même un doute sur le fait d'avoir deux stars dans la même équipe. Je préfère quand il y a vraiment une star et que le reste de l'effectif soit bien constitué plutôt qu'avoir deux stars et un effectif moyennement constitué. Je trouve qu'aujourd'hui, si on fait un peu un comparatif par rapport à ce qu'on a connu au début de l'ère Qatari, au point de vue effectif, c'est qu'à l'époque, les seconds couteaux, les remplaçants, ça pouvait être Mathieu, ça pouvait être moi, ça pouvait être Chantôme, ça pouvait être Menez, ça pouvait être Gamero, Waro, et finalement, tu te rends compte que c'est des mecs qui ont été proches ou qui ont été internationaux, qui connaissaient bien le championnat. Et ces joueurs-là, finalement, te permettaient d'avoir plus de sécurité en championnat et de pouvoir aborder les matchs de Ligue des Champions mieux physiquement, avec moins de fatigue et moins de stress aussi. Là, Paris, ils sont pressés comme des citrons depuis le début de saison parce qu'en championnat, ça ne va pas trop. Tu n'as pas de marge de manœuvre. Aujourd'hui, tu n'es pas sûr d'être champion. Tu arrives en Ligue des Champions, t'as des blessés, t'as des mecs en méforme. Bon, en plus de ça, avec le Covid, c'est encore plus compliqué. Mais dans la constitution de l'effectif, je trouve qu'ils ont pris une direction qui, depuis quelques années, qui est moins cohérente que ce qui se faisait avant et qui est moins bonne pour les résultats de l'équipe.
Depuis la double arrivée de Neymar et Mbappé ?
Pas forcément depuis cette double arrivée, parce qu'en soi, faire venir des joueurs comme ça, moi, en tant que supporter, je suis heureux qu'on les ait. Mais le problème, c'est qu'on est trop dépendant d'eux, comme disait Mathieu. Mais à côté de ça, autour, c'est pas assez équilibré et c'est pas, je veux dire, il y a certains joueurs qui sont arrivés avec des gros transferts, des gros salaires, et qui connaissent très peu le championnat, malgré, en plus de ça, qu'ils sont jeunes. Et donc, du coup, le championnat de France, on a beau le critiquer sans arrêt, mais c'est un championnat qui est compliqué. Et s'il n'y a pas des joueurs qui ont un minimum de qualité technique pour être à Paris et être champion, on a moins de marge.
Ouais, mais à côté de ça, tu vois, on avait recruté des joueurs qui connaissaient un peu le championnat, qui étaient des bons espoirs français. Je pense à Stambouli ou des types un peu installés, Cabaye par exemple. grosse déception aussi. Ils n'ont pas réussi à élever leur niveau pour justement jouer ce rôle de second couteau.
Oui, mais parce qu'à cette époque-là, tu les comparais à qui? Tu les comparais à Mota, qui était phénoménal. Tu les comparais à Matuidi, qui courait pour 4. Est-ce qu'aujourd'hui, un Stambouli ou un Cabaye n'aurait pas sa place au milieu? Ou est-ce qu'il serait critiqué autant qu'à l'époque? Je suis pas sûr.
C'est peut-être pas, effectivement.
Mais surtout, tu as mis de l'argent sur des... Toi, Kerrer, c'est 37 millions, ouais, Paredes, c'est 50. Herrera, c'est un gros salaire.
On surpaye nos transferts.
Sarabia, c'est 25 millions.
Mais
et finalement...
pas que les transferts. Tu te dis, finalement, tu prends l'exemple de Lévin, qui a été prolongé 4 ans. Tu te dis, aujourd'hui, le numéro 1, c'est Bernat, qui joue pas à cause de sa blessure. Tu fais jouer Diallo. Quand Diallo ne joue pas, c'est Becker qui joue. Et tu te demandes, Lévin... qu'est-ce qui se passe?
Ah bah le renouvellement de contrat de Lévin Kurzawa est un mystère pour à peu près tous les suiveurs.
C'est financier, je pense que tu te dis c'est plus simple de lui remettre 4 ans en espérant que tu vas le retaper et peut-être
revendre,
pigeonner un club anglais ou je sais pas, plutôt que il part gratuit et puis il faut que tu remettes au pot pour trouver un numéro 2, parce qu'au départ, quand il re-signe Bernat, il est apte. Donc en gros, t'as besoin d'une doublure. Et aujourd'hui,
c'est une place en Ligue des Champions aussi. Il faut des joueurs formés en France.
Et peut-être le souci, comme le disait Nico, c'est que on recrute plus de joueurs en France. T'as plein de bons jeunes en France. Tu vas à Monaco, à Nice, à Lyon, Saint-Etienne, Bordeaux.
Je pense que c'est la différence pour moi entre Lyon, quand moi j'y étais. Lyon, tous les ans, prenait 2-3 joueurs du championnat de France. Ils essayaient de prendre les meilleurs joueurs.
Oui, les années 2000 de Lyon, c'était ça. On pille,
ils achetaient,
bon,
et puis ils ramenaient toujours une vedette un petit peu internationale. T'as eu Sonny Anderson, Giovanni Elbert, Lisandro Lopez, des joueurs comme ça. Mais quand tu regardes Kastrom, Toulalan, Pjanic, Makoun, le PSG, c'est très rare qu'ils aient pioché. Après, les clubs français, le problème, c'est que dès que le PSG arrive, c'est x3 le prix.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Hein.
Donc ça aussi, c'est un souci. Mais tu vois, par exemple, quand tu vas pas, pour moi aujourd'hui, chercher Simakan de Strasbourg, tu verras qu'il ira à Leipzig, qu'il fera une grosse saison, qu'il sera transféré dans 2-3 ans dans un top club. J'ai pas de doute là-dessus. Je me dis, par exemple, aujourd'hui, aller chercher Tchouaméni.
Ouais, ou Fofana. Fofana
de Monaco, tu vois. Parce qu'au milieu de terrain, c'est un joueur français. Donc, pour la formation française, c'est très bien pour la Champions League. Qui connaît le championnat, qui parle déjà la langue. Donc, t'as pas d'adaptation. Mais qui a un potentiel extraordinaire, qui a 21 ans, qui aujourd'hui peut jouer au PSG tous les jours. Et mais qui t'apporte pendant 3-4 saisons une sérénité et avec une possible plus-value sur une revente aussi. Et
cet exemple, il est très bon parce que Monaco, par exemple, qu'est-ce qui fait que des Tchouaméni ou des Fofana, ils explosent comme ça à Monaco? Il y a un coach qui a de l'expérience et qui fait travailler vraiment du jeu collectif. On n'a pas... Il y a des vedettes, mais bon... Fabregas,
Regarde la différence aujourd'hui. Kovac est capable de mettre Ben Yedder sur le banc 3-4 matchs, de se passer de Fabregas, de mettre Jovetic ou Golovin sur le banc, et il n'y a personne qui parle. Demain, tu mets Mbappé ou Neymar pour raison sportive. Hein. Ben Yedder, c'est un choix. C'est-à-dire qu'il se dit, ouais, je parie Jovetic et Voland parce que Voland, il correspond mieux, etc.
C'est la sortie de Di Maria au match aller.
Mais Paris, c'est impossible de faire ça.
Pourquoi tu sors Di Maria alors que Neymar passe à côté de son match et Mbappé est pas bon?
Parce que tu ne peux pas sortir Neymar. Voilà. Parce que c'est, comme on l'a dit plus tout à l'heure, c'est politique, parce que c'est l'image de marque, et parce que tout entraîneur. Nous, on a connu ça quand on jouait au foot quand t'étais petit, t'étais le meilleur de l'équipe. Le coach, il dit quoi? À un moment donné, il va me faire quelque chose.
Oui, c'est ça. C'est un clutch.
Ouais, tu dis, 88e, il peut être nul tout le match.
C'est pas une stratégie sportive.
Non. Non,
mais c'est la pièce en l'air que tu
C'est la différence
tout à
entre City, pour moi, aujourd'hui, ou le Bayern de Munich, même si on a éliminé le Bayern. Et... Le Bayern de Munich, c'est une... tu regardes comment ils ont construit leur modèle économique et l'équipe depuis des années. Regarde, là, ils vont se séparer de Boateng. Pourtant, c'était joueur légendaire au Bayern de Munich. Les mecs, ils ont tout gagné. À un moment donné, ils disent quoi? Sportivement, ça passe plus. On sort, on prend Kouassi, ils ont déjà acheté Upamecano, voilà. Et on renouvelle. Ils ont sorti Ribéry et Robben. Je veux dire, au PSG, aujourd'hui, si un joueur veut rester jusqu'à la fin de sa carrière quasiment, personne ne le sortira. Ils ont sorti Ribéry et Robben. Les mecs, pendant 10 ans, c'était... Dominique, c'était eux, quoi. On vous fait une fête, mais sportivement, on a Coman qui arrive derrière, on a Nabri, on a d'autres joueurs. On prend le Roi Sané, et ainsi de suite. Et puis, ils se renouvellent.
Et je pense et qu'il faut recrute, que le club... Et ils recrutent local, beaucoup.
Ouais.
C'est souvent ils pillent Dortmund, ils ont compris, c'est comme ça. Toi, Lyon, Aouar, Kakré, des joueurs comme ça, ils doivent passer chez toi avant d'aller ailleurs.
Tu dois tenter Aouar, tu dois tenter Tchouaméni, tu dois peut-être tenter Fèvre de Brest, pour remplacer...
Soumaré à Lille, qui est formé au PSG.
Soumaré est formé au club. Et tu vois, ça c'était l'autre débat qu'on a eu un petit peu sur Téléfoot aussi cette année, c'était le problème des joueurs formés au club. Tu vends Diaby, tu vends Nkunku, tu vois ce qu'ils font aujourd'hui en Champions League ou en Europa League, tu dis que ces mecs-là, peut-être dans l'effectif, ça te coûte moins cher qu'un joueur que tu vas payer 25, 30, 50 millions. Ils sont nés ici, ils ont grandi ici, ils ont peut-être l'amour du maillot, j'ose espérer. Et que quand ils vont rentrer dans le match, ils vont peut-être te faire un apport différent de mecs qui ne connaissent pas le club, qui sont frustrés de ne pas jouer. Parce que Sarabia, on l'a tous vu jouer à Séville, c'était un très bon joueur. Là, quand il rentre, Il y a des matchs où il n'a pas envie de jouer, le mec. Quoi. Ouais, parce que ça, il est frustré, il se dit, bah, j'aurais jamais.
Mais est-ce que tu les vends, c'est Nkunku, c'est Diaby, ou est-ce qu'ils veulent partir aussi? Parce qu'on a eu quand même ce gros débat. Le cas Kwasi, par exemple, c'est symptomatique. Non,
Kwasi, pour moi, il est à part dans la stratégie du club.
Paris ne pouvait pas le garder. Hein.
Voilà, je pense qu'ils n'ont pas pu le garder.
Ils voulaient,
pour,
mais ils n'ont pas.
L'entourage, peu importe, mais il y a d'autres raisons.
Diaby, Nkunku.
Autant tu me dis les autres, ils partent parce qu'ils veulent jouer, ouais. Ils avaient moins de temps de jeu, je peux comprendre. Autant Kwasi, il était déjà installé, entre guillemets. La dernière, il fait 15-20 matchs, titulaire, il est très bon. Thiago Silva part, tu sais que c'est lui la succession.
Puis le retour à Dortmund, il rentre, quoi. C'est le 13e ou 14e joueur, il était dans la rotation.
Il était déjà installé, il jouait soit 6, soit derrière. Tu dis sportivement, le mec qui réfléchit un peu, il dit Kwasi, il va y être. L'année prochaine, il jouera 25, 40 matchs. 30 matchs, il va rentrer. Après, il y a toujours la partie financière et ça, on ne maîtrise pas. Mais tu vois, pour des joueurs comme Diaby et Nkunku notamment, bah, c'est une période où tu n'as pas voulu vendre des joueurs un peu plus âgés. Tu t'es dit, bah, lui c'est 15 millions, lui c'est 16 millions. Mais on récupère un peu d'argent pour le fair play financier avec les jeunes. Mmh. Elle est juste là l'histoire, moi, pour moi. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois Diaby, est-ce que tu dis sur un match comme hier, par exemple, le style de Diaby ou Nkunku, des jeunes qui sont capables de percuter, qui courent, qui défendent, est-ce qu'ils ne correspondent pas plus à des joueurs qui, hier, ont joué?
Oui, c'est sûr.
Après, c'est une stratégie de club.
Alors, comment on la gagne l'année prochaine? Avec Pochettino, nouvelle stratégie, donc on garde Neymar. De toute façon,
j'espère qu'on ne va pas virer Pochettino après une demi-saison quand même.
Ouais, mais c'est, ouais. Enfin, je pense que Pochettino est un très bon coach. C'est probablement pas la dimension de Guardiola encore, mais il a encore des années pour progresser. Mais comme Tourelle était un très bon coach, comme à mon avis Emery est un très bon coach aussi. Donc comment on fait pour que l'histoire ne se répète pas et que l'année prochaine, voilà, ce soit une vraie belle saison? Déjà, on va espérer que les supporters reviennent dans le stade. Je pense que ça va changer quelque chose. Ouais. Parce que mine de rien, tout le monde est venu gagner à Paris cette année. C'est, ouais. C'est horrible, mais tous les concurrents directs, y compris en Ligue des Champions, tout le monde est venu gagner au Parc. Peut-être parce que le Parc est vide. Enfin, en tout cas, j'espère que c'est pour ça. Quelque part, quand les supporters vont revenir, peut-être que ça va changer un petit peu la donne. Mais voilà, comment vous voyez la saison qui vient, vous?
C'est sûr, ça va changer. Quand le Parc sera plein, ça va changer.
Ouais, ça change.
C'est évident. Après, il faut aussi penser que ça sera vraiment le vrai début de saison de Pochettino.
Ouais.
Il doit déjà, depuis un moment, travailler sur l'effectif de la saison prochaine, parce qu'il sait que la saison prochaine, il sera attendu avec ses choix, les joueurs qu'il aura choisis, sa tactique, enfin, ce qu'il aura apporté sur le terrain. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'il y ait eu un grand changement de jeu par rapport à l'époque Tourelle. Il y a un petit peu de changement, parce que le système tactique a changé, mais dans l'animation, on n'a pas un PSG qui maîtrise beaucoup plus que quand il y avait Tourelle. Donc là, ça sera ses vrais débuts et ça sera à voir comment lui va constituer son équipe.
Pour revenir sur la Ligue 1, notre belle Ligue 1, parce que cette année, c'est quand même une Ligue 1 assez incroyable. Moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu 4 équipes à 2 points de moyenne par match quasiment jusqu'à la fin. Enfin, jusqu'à la fin, je pense qu'encore aujourd'hui, je pense que Lyon doit être encore autour des deux points par match, qui est habitué à un régime de champion quasiment. Mm-hmm. Comment vous l'avez vécu cette saison, avec le fait que la saison est assez exaltante, et en même temps que ça veut aussi dire que Paris passe un peu à côté de sa saison avec ses 8 défaites, qui fait que du coup voilà, il risque même de pas être champion. Mathieu,
ce qui est drôle, c'est que c'est une saison où c'est exaltant au niveau du suspense, tu dois vraiment te sortir les doigts, mais j'ai pas pris beaucoup de plaisir, tu vois. Je cherche les matchs de Ligue 1 où j'ai vraiment pris mon pied avec le PSG, d'avoir le match à Lyon, les 15 dernières minutes contre Saint-Etienne.
Oui, parce que tout le monde est venu gagner à Paris, mais évidemment, Paris est allé gagner à Lyon, est allé gagner à Marseille.
Mais sinon, c'est la première fois depuis extrêmement longtemps où tu rates toutes tes confrontations directes contre tes adversaires principaux, que t'es aussi malmené au Parc des Princes. T'as perdu contre Nantes quand même, t'as perdu contre l'OM, t'as donné le match à Lorient, le 2-2 contre Bordeaux, enfin... T'as vraiment raté ton championnat. Après, il y a des circonstances, hein. Il n'y a pas de public.
C'est ce match-là qui manque aujourd'hui.
Il y a le Covid qui a fait que tu as eu ton effectif touché. Tu as repris peut-être tard. Tu n'as pas fait une bonne transition mentale entre le Final 8 et la Ligue 1. Enfin, tu as aussi peut-être raté ton mercato avec des joueurs un peu bizarres. Mais tu sens moins d'appétence pour la Ligue 1. Peut-être qu'il y a 4-5 ans, peut-être qu'ils pourront en parler mieux que nous, mais je pense qu'un mec comme Ibra, par exemple, c'était vraiment un cannibale du championnat, quoi. Peut-être qu'il avait des défauts en Ligue des Champions, mais sur le championnat, il avait une exigence telle sur 38 journées que lui, il cassait la gueule à tout le monde, quoi. Et il te manque peut-être cette locomotive-là, ce mal alpha qui fait que...
Est-ce qu'on n'a pas un peu l'inverse? C'est-à-dire que les mâles alpha du vestiaire, ils en ont un peu rien à foutre de la Ligue 1. Je suis un peu caricatural, mais c'est un peu la présentation.
Je ne saurais pas te dire qui est le taulier de ce vestiaire, par exemple.
Qui est le mâle alpha du PSG aujourd'hui, quoi? C'est Navas, peut-être? Et encore?
Marquis?
Mâle alpha, Marquis.
Je pense qu'il n'y a pas de taulier, moi. C'est un groupe qui vit bien, il s'aime bien. Mais t'as pas de leader.
Pour revenir à ça, ta question, on le remarque depuis quand même plusieurs années que le championnat, il gagne facilement et que l'objectif du club et de tout le monde, c'est gagner la Champions League. Fin de l'histoire. C'est-à-dire que le championnat, les mecs, ils rentrent sur le terrain. Et pendant des années, c'était vrai. Ils rentraient sur le terrain, ils gagnaient.
Et cette année, il y a un peu d'adversité.
Il y a de l'adversité. Lille, c'est une très belle équipe. Monaco, c'est très fort. Et moi, je trouve que Lyon rate son championnat.
Ah oui, complètement. Ils ont très
normalement,
belle
Lyon équipe, devrait être premier ou devrait être encore dans la course. Là, ils sont dans la course à la troisième place. Ils ont gagné miraculeusement contre Monaco ce week-end. Mais normalement, le championnat devrait déjà être perdu pour le PSG. Ils sont encore dans la course. Maintenant, il y a un derby Lens-Lille ce week-end qui va valoir beaucoup. Mais pourquoi? Parce que les mecs, ils disent quoi? Ils ont joué à Champions League au mois d'août, ils refont une campagne, ils sont encore en demi-finale. Ils disent, dans leur tête, je pense. Hein,
on perd une finale. Qu'un seul championnat, en fait.
On perd une demi-finale. On a fait notre saison, en fait. Le championnat qu'on gagne, qu'on gagne pas, ça fait trois fois qu'on gagne de suite. On l'a gagné 8 ou 9 fois sur les 10 dernières années. Une fois, Monaco est venu le prendre, grosso modo. Voilà, la saison prochaine, on redémarre la saison normalement, on sera champion. Il faut pas se mentir, avec l'effectif qu'ils ont, la logique, elle est comme ça. C'est comme nous, à l'époque, on était à Lyon, on savait que quand on commençait le championnat, il y avait 99 chances sur 100 que tu sois champion à la fin. Et c'était que toi qui pouvais faire perdre. Mais le PSG, c'était ça. C'est ce qu'on disait au début de l'année, même dans les émissions. On disait le plus grand adversaire du PSG, c'est le PSG lui-même.
Ouais, cette phrase, quand même quand vous étiez dans l'effectif, on l'entendait, on l'entendait déjà. Hein.
Ouais, non, mais c'est la vérité. Je veux dire, si le PSG se lève et dit on veut gagner les 38 journées et fait tout pour le faire, avec l'effectif qu'ils ont, la qualité des joueurs, ils vont le faire. Mais sauf que tu te rends compte, voilà, ils ont misé. Et encore, la Champions League, tu t'en sors bien en phase de poule notamment. Après, 8e quart, il n'y a rien à dire. Tu fais des matchs, c'est à regarder, c'était magnifique, etc. Mais les mecs jouent que la Champions League.
Le match le plus abouti, c'est celui au Camp Nou. Hein. Probablement, le match de la saison.
Je sais pas, je trouve que le retour contre le Bayern, malgré le score, ils font un match quand même assez exceptionnel. Tu rejoues ce match-là, tu gagnes 3-0, tu fais 3 ou 4 poteaux, t'es dedans. Quoi.
Tu rejoues le match aller, tu perds 3-0.
Peut-être aussi, mais je trouve que le retour du Bayern, c'est vraiment un match de très haut niveau.
Collectivement.
Ouais, puis avec deux équipes de très haut niveau. L'aller au Nou Camp, j'ai l'impression que Mann te prend un peu par-dessus la jambe et il se dit on va te tamponner, et puis ils sont naïfs. Et puis toi, t'en profites parce que t'as les armes pour. Ouais. Mais la double confrontation contre le Bayern, c'est vraiment une grosse confrontation de Ligue des Champions. Quoi. Franchement, on a pris un pied fou, quoi.
C'est une victoire historique en aller-retour contre un club que tu as rencontré en finale l'année dernière. Donc, c'est peut-être un petit
gros fait d'armes. Tu sens le tenant du titre, c'est quand même aussi...
Mais après, est-ce que inconsciemment, ça t'a pas desservi pour City?
Ouais, j'ai l'impression que t'es arrivé un peu trop confiant parce que c'est peut-être un moins gros nom. City, c'est un club un peu comme toi. C'est pas un club historique du football européen.
Moi, je trouve que dans les observateurs, je te rejoins, Nicolas, on a entendu ça. On a entendu, attends, on a battu le Bayern. City, c'est à notre niveau, c'est à notre portée. Ce qui est vrai. Mais globalement, je pense que City était un adversaire peut-être plus costaud.
Pour ceux qui regardent pas City le week-end.
Exactement, c'est ça. Si tu suis la Première Ligue, City cette année a vraiment marché sur la Première Ligue. C'est pas la première saison qu'ils le font. Mais cette année en Ligue des Champions, Guardiola a décidé de faire les choses à l'endroit. Et
c'est une équipe complète qui avait pas d'absent majeur. Hier, ils font rentrer Sterling, Agüero, je sais plus qui c'est qu'ils font rentrer d'autres. Jésus, toi tu fais rentrer Dagba, Bakker et Draxler, quoi. Donc. T'as aussi une différence à ce niveau-là.
Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur comment tu fais ton effectif aussi. C'est vrai qu'au PSG, t'as deux joueurs extraordinaires, t'as des joueurs qui sont très bons, Verratti et Marquinhos, qui ont un niveau très élevé, un super gardien, mais t'as pas 18 ou 20 joueurs consistants. Il y a 2-3 postes où, et encore, à droite, pour moi, il n'y a personne du tout, réellement de titulaire indiscutable. À gauche, c'était Bernat, qui malheureusement s'est blessé, mais je veux dire, derrière lui, t'as personne réellement pour le remplacer de fiable sur une grosse compétition. Je veux dire, tu joues bien Dominique avec Bakker, j'ai rien contre lui.
Mais
je
veux dire, sa première mi-temps...
Il a fait son taf, mais avant le match, quand tu parles avec tout le monde dit c'est impossible qu'il défende sur Kingsley Coman ou peu importe. Il va prendre la foudre tout le match. Pareil contre Barcelone, tu dis si Ousmane Dembélé va prendre la foudre tout le match. Les latéraux, tu regardes City hier, tu sais que c'est Walker. Moi, j'étais avec mes potes, j'ai regardé le match. Je dis, s'ils continuent à attaquer le côté à Walker, ils veulent le prendre de vitesse, ils peuvent le faire toute la nuit.
Ah bah clairement, oui.
Ils passeront pas une fois. Mais tu te sens un peu... Les mecs, ils ont pas travaillé, entre guillemets. Que City, moi j'ai trouvé Guardiola, surtout sur le match aller, et tu vois le changement à la mi-temps, le mec, il a étudié son adversaire, il le connaît par cœur. Et à la fin, il dit, on a ralenti le tempo, parce que si tu donnes de la vitesse au PSG, t'es sûr de perdre.
Il savait comment te faire mal, en fait.
Il savait comment te faire mal, exactement. Et hier, première mi-temps, t'as dit, il leur laisse le ballon, et t'as l'histoire 7 minutes. Hein. Penalty, pas penalty. Mmh. J'ai dit à mes collègues, on a perdu. Je me dis pourquoi ? Il dit, tu vois, le PSG, ils ne sont pas capables de dire, il n'y a pas penalty, parce que je voyais déjà en train de tirer. Et dès qu'il y a un élément qui ne va pas dans leur sens, c'est fini, tout le monde s'éteint. Il n'y a pas de leader pour moi dans cette équipe. Et tu le vois après avec les cartons rouges. Je pense qu'on est l'équipe au monde qui prend, dès que ça ne va pas, qui prend le plus de cartons rouges. Mais des cartons rouges, idiot. Je ne te parle pas le mec qui part au but comme Valverde a fait l'année dernière. Tu le tamponnes pour ne pas perdre ton match. Là, je lui dis chapeau. Hier, Di Maria, il prend un carton rouge. Donc tu sais que déjà que l'année prochaine, s'il est là, bah, les deux, trois premiers matchs, il ne jouera pas. Et ainsi de suite. Mais tous les matchs, c'est comme ça. Le match d'avant, bon, c'est Ganagay sur une faute un peu bête.
Et le PSGOM, il dégoupille parce que t'es pas dans ton match. Et ça me fait penser au match à Nice, je sais plus si tu y étais, le titre de 2017, où il gagne 3-1 et Mario, il fait un match de fou. Et il dégoupille à la fin. Et Paul Bayes, il fait dégoupiller Mota. Parce que t'étais, ce match-là, si tu le perdais, bah, Monaco était champion. Et c'est souvent dans ce cas-là où,
c'est compliqué.
Quand t'as des matchs charnières, et bah, ils explosent.
C'est compliqué. Et ça, c'est la différence que t'as avec Lyon, par exemple. Toi, Lyon, c'est quand même une institution depuis de nombreuses années. Quand tu as un match charnière, que t'aimes ou que t'aimes pas Lyon, et on l'a vu sous Canet Monaco, ils arrivent toujours à renverser la tendance pour espérer qu'ils gagnent quelque chose en fin de saison. Et pourtant, Lyon, cette saison, je te dis, il y a des matchs où ça va pas. Mais quand il y a un match qui est important, on l'a vu en Champions League l'année dernière, ils sont capables, Lyon, de surpasser sur un match.
De se sublimer, ouais.
Tu vois. Et le PSG, j'ai pas trop trouvé ça ces dernières années.
Alors, moi, ce qui m'a choqué, notamment par rapport à cette victoire lyonnaise à Monaco, c'est que j'ai vu une interview d'Ola juste avant qui dit on va vous surprendre. Il y a cette espèce de certitude, tu sais, de truc. Je pense qu'il a cette capacité à sublimer les mecs et de l'assumer. Nous, j'ai pas l'impression qu'on ait ce discours-là à Paris. Pourtant, on est Paris, pourtant, on a un gros effectif, mais t'as jamais ce discours du on est là, quoi. Et on va vraiment faire un gros match.
Ouais, tu vois pas trop Nasser prendre la parole.
Tu l'entends pas. Mais je suis d'accord avec toi. Le PSG a beaucoup perdu quand Ibrahimovic est parti. Déjà, tu rentrais sur le terrain avec lui, tu avais un but d'avance. Parce que les mecs, ils avaient peur en face. Putain, faut que le coaching. Bon, déjà, il faisait 2 mètres, il a du charisme et tout. Mais t'as plus de joueurs aujourd'hui. Tu te dis, Neymar, à tout moment, tu le pousses 2-3 fois, il peut prendre un rouge. Ouais. Ibrahimovic, il jouait avec l'adversaire. Même l'arbitre, il avait peur de lui. C'est l'arbitre qui s'est déplacé. Tu te rappelles de ces. On en a vu des histoires avec lui. Les mecs, ils avaient peur de lui. Mais même dans le vestiaire, tu vois, je suis d'accord avec toi sur la Ligue 1, il était motivé, il était etc. Mais t'avais aussi des mecs autour, comme disait Nico. Et Nico avait un rôle très important, par exemple, de mec, ouais, le championnat, c'est pour nous. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le deuxième gardien ou le troisième arrière gauche se disent, ouais, le championnat, c'est important d'aller gagner à Metz ou d'aller gagner à Dijon, peu importe.
Ouais, vraiment une vraie méconnaissance de la Ligue 1, de là, ça peut être un traquenard, là, c'est compliqué.
La Ligue 1, elle est dure.
Eh oui. Ouais.
Tout le monde croit que la Ligue 1, oui, parce qu'il n'y a pas chez. Ouais, va jouer à Nantes. Nantes, ils sont hors des gars, mais tu as vu les attaquants qu'ils ont. Il faut courir après eux. C'est une équipe qui va être embêtante, c'est toujours compliqué. Tu joues contre Metz aujourd'hui, c'est une équipe qui est difficile à bouger.
Bah Lens, regarde, Lens, c'est les promus, ça joue.
Tu joues Lens.
Ah ben, bah on compte sur eux contre Lille.
Tu vois, c'est toujours des. Tu joues Lille. Ah, c'est dur hein, de jouer contre le Loss pendant 90 minutes, c'est un combat, les mecs ils défendent, t'as pas d'espace. Moi, je regarde tous les championnats. Je peux te dire que t'es l'Espagne, t'es Real de Madrid ou Barcelone, il y a des week-ends, c'est détente. Hein. Tu fais 10 passes, les mecs ils sont tous derrière, machin. Tu joues l'Angleterre, City, moi je les ai vus éclater des équipes. Au bout de 20 minutes, tu sais déjà comment ça va finir. Les mecs sont 14 dans le but, et même les remplaçants sont derrière le gardien. Ils veulent pas attaquer parce qu'ils veulent pas prendre une valise. Aujourd'hui, le problème du PSG, c'est que ça fait pas peur comme ça. Tout le monde joue contre le PSG pour gagner.
Et c'est encore pire, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs, les équipes viennent au parc pour gagner.
Pour gagner.
Avant, ça a changé. Hein.
Ouais, avant, tu venais au parc, tu disais, si j'en prends que 4, j'ai fait mon match. Mmh. Et tu vois, je trouve qu'on mesure encore plus aujourd'hui le poids qu'avait un mec comme Ibra, déjà dans les stades, dans ce qu'il inculquait, dans la manière qu'il avait peut-être d'élever ou d'améliorer les autres. Aujourd'hui, on n'a plus ce relais, on n'a plus ce connard arrogant, mais qui est tellement fort, quoi.
Tellement parisien.
Mais la dernière saison.
La figure du connard arrogant, non, mais ça ressemble au club.
Il a 35 ans, il met 38 buts, 15 passes décisives.
Il a 40 ans, il a mis 20 buts. Hein.
C'est une machine. Là, la semaine dernière, il a fait une galette avec une aile de pigeon. Et
c'est donc pas en forme.
Il manque un mec comme ça.
Et on regrette Ibra, en fait.
Au-delà des stats qui sont incroyables, celle d'Ibra. C'est aussi ce qu'il a porté dans le vestiaire.
C'est ça.
C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui ne faisait pas le job, il était capable d'aller le voir devant tout le monde ou face à face, mais il lui disait ses quatre vérités. Et ça, tu as besoin de gens comme ça dans un vestiaire.
Comment tu peux ça gérer ? Toi, tu es arrivé à gérer ce personnage ou pas ?
Il était juste.
Ouais.
Il était juste. Il gueulait tout le temps, mais ça a amené à quelque chose. C'était pas juste gueuler pour gueuler. Alors oui, il y a des fois où il partait en vrille totale, mais en soi, il a permis au club de s'élever. Il a permis à l'équipe d'aller plus haut. Il nous a permis à nous, notamment à moi, hein, d'être plus professionnels. Enfin, il a apporté énormément. Aujourd'hui, je regardais la dernière fois par curiosité en nombre d'années qu'il a passé à Paris, le nombre de matchs qu'il a fait, et je regardais ce qu'a fait Neymar. Sur le même nombre d'années.
Non, il y a 50% de matchs joués. Hein.
Ben ouais, mais quand t'es la star du club, ça pique.
Alors, qui serait le nouvel Ibra, selon vous ? Qu'est-ce qu'on pourrait recruter comme joueur ?
Il n'y en a pas pour l'instant.
Non, pas dans le club. Alors, pas dans le club, ça c'est sûr. Mais quel joueur on pourrait éventuellement recruter pour jouer ce rôle, qui serait grande gueule, qui serait pro et efficace et qui aurait une légitimité ?
Tu reprends Ibra.
44 ans.
Mais après, tu regardes, pour revenir sur lui, ce qu'il fait au Milan, un effectif très jeune avec beaucoup de qualité. Il vient les entourer, comme il a dit la dernière fois, je suis le père, c'est mes enfants. Mais le Milan fait une saison quand même plus que correcte, va peut-être se qualifier pour la Champions League. Je ne vais pas dire que c'est lui qui fait tout, parce qu'autour de lui, il a des joueurs. Mais il est toujours important dans le projet. Après, pour le remplacer, je ne suis pas sûr qu'avec une seule personne, tu y arrives.
Ouais.
La vérité est là, parce que c'est difficile de trouver un mec qui ait du caractère, qui ait du charisme, mais qui soit bon en plus et tous les week-ends. Parce que comme a dit Nico, le mec sur 38 journées, il va en faire 36, 37, parce qu'une fois, il avait pris 3 jaunes, il ne jouait pas. Très rarement blessé, même blessé des fois, il jouait.
Il était insupportable. Hein.
Quand il ne jouait pas, il était insupportable.
Ah ouais, déjà, quand il jouait, il était insupportable, mais quand il ne jouait pas, c'était pire. Il voulait tout le temps jouer.
Il te faut des mecs. Lille, par exemple. Lille, ils ont des joueurs à gros potentiel, ouais. Vraiment. Mais leur équipe, pourquoi elle marche ? José Fonte, Benjamin André, Burak Yılmaz.
Burak Yılmaz, tout le monde l'a dit, il a 35 ans, il a pris gratuit, il n'avance plus.
Mais tu as vu Burak Yılmaz, ce qu'il fait tous les week-ends ?
Il éclate.
Mais chaque ballon, le mec,
il se bat.
Il pousse le gardien, il revient, excuse-moi, le ballon d'après, machin et tout. Benjamin André, personne n'en parle depuis des années, mais c'est un top joueur en vrai.
Clairement.
Quand il n'est pas là, ça ne va pas. Et à côté, tu as Soumaré. Soumaré, c'est un top joueur aussi. Mais ça, Botman, super joueur, tu verras qu'il fera une grande carrière, mais il est bien parce qu'il y a José Fonte à côté. Mmh. Et ça, c'est le meilleur coup qu'ils aient fait le loss. C'est les joueurs qui ont coûté le moins cher sur le papier. Alors, peut-être que Paris, à un moment donné, va peut-être falloir chercher des joueurs un peu moins bling-bling, mais qui ont une importance comme Yılmaz, par exemple.
Plus utile, ouais.
Plus utile, tu vois, au quotidien.
Notre meilleur coup, c'est Navas. On l'a recruté pas cher en se disant c'est un vieux gardien, mais en fait,
c'est le coup du siècle parce que le mec, depuis des années. Et toi, t'es gardien, tu sais comment ça se passe encore. Quand t'es joueur et que tu sais que l'autre derrière, il peut tout arrêter, tu dis, je vais avancer un peu. De toute façon, il peut frapper. Dans les cages, il arrête tout. Donc ça te rassure, ça rassure tout le monde.
Complètement.
Et Lille, et Monaco aussi a fait un... Kovac, il a changé sa philosophie un peu en cours de saison. Au début de saison, tout le monde s'en rappelle, Disasi et Badiachil, qui sont deux joueurs à gros potentiel. Ça marchait moyennement. Il a mis Maripane. Boum, pas le moins de buts.
Il a remis Sidibé un peu.
Remis Sidibé, joueur avec un peu d'expérience. Les mecs, voilà, il joue pour gagner. Il joue pas pour être beau.
Je suis d'accord avec toi et c'est vraiment un idéal qu'on aimerait avoir. Le problème, c'est toujours le côté politique du club. C'est-à-dire que Navas, on a pu le recruter, on disait tout à l'heure, super coup, pas trop cher, mais parce qu'il venait du Real. On n'aurait pas pu recruter l'équivalent d'un Navas s'il était venu de Mönchengladbach. Quoi. Je veux dire, ça aurait pas marché.
C'est toute la différence qu'entre Lyon de 2000 et le PSG d'aujourd'hui, qui fait pas tourner en plus l'économie française. Après, ça, comme je disais tout à l'heure, ça vient aussi des clubs français qui, à chaque fois qu'ils voient le PSG, ils mettent un prix exorbitant parce qu'ils disent ont de l'argent. Mais oui, tu dois aller chercher des joueurs du championnat de France qui sont habitués à jouer tous les week-ends contre Dijon, Nantes, Metz, qui ont l'habitude de ça parce que c'est un championnat compliqué. Et oui, t'étais aux trois vedettes parce que c'est ça qui fait le business, etc. Mais je pense que l'été, ça va être un grand tournant dans l'histoire du club.
Ouais. Donc, pour ça qu'on va le prendre. D'Ibra, quand il arrive, vous êtes déjà au club, vous connaissiez forcément le mec. Vos premiers souvenirs quand il arrive dans la porte, parce que forcément, on s'attend à plein de choses sur lui. Et
moi, je vais te raconter.
Qu'est-ce qui vous a surpris
le premier entraînement. Je ne sais pas si tu te rappelles à New York.
Si, je me rappelle.
On fait nos positions, on se contrôle, on se tactique. On s'est aussi dit voilà, on va faire ça. Et c'est pas plus Camara qui a le ballon dans les pieds. Tu te rappelles de cette... Pas plus Camara, il a le ballon, et puis il joue détente. Et Ibra, il arrive, il met coup d'épaule, il met grand pont, il va marquer. Il dit, maintenant, Ibra, il est arrivé, on joue sérieux. Mais ça fait 10 minutes qu'il est là, tu vois. Et ça, tu te dis, ah ouais. Ouais. On connaît tous le joueur, le mec. Mais en fait, le mec, il est professionnel. Chaque entraînement, c'est une bataille. Là, le ballon, il sort de 5 cm, il peut se disputer pendant une heure. C'est une mentalité complètement différente. Et je suis d'accord avec Nico à 1000%, c'est que... Oui, il a mis 200 buts, machin, etc. Mais tous les jours, en fait, il a élevé le niveau du club. Pour moi, ça a été le joueur le plus important ces dernières années. Tu peux ramener Neymar, Mbappé, ce que tu veux. C'est lui qui a ramené le club à ce niveau-là.
Moi, je vais même plus loin. J'ai l'impression que c'est le joueur presque le plus important du club parce que la différence entre le club à son arrivée et le club à son départ, elle est énorme, comme tu le disais, Nico, à plein de niveaux différents. Il y a le sportif, bien sûr, mais peut-être à l'entraînement, là, les mises au vert, je sais pas, il y avait l'histoire des places de parking, enfin des petits détails qui fait que bah, dans les grands clubs, c'est normal, mais qu'au PSG, tu n'avais pas cette culture-là. Et peut-être qu'aujourd'hui, il manque un mec comme ça pour élever tout le monde et puis dire à des mecs, bah, ferme ta gueule, tu joues.
Mais t'imagines quand même qu'à l'époque, quand ils recrutent les joueurs, tu as Ibrahimovic qui arrive, tu prends Maxwell. Maxwell a gagné 30 titres. Tu prends Thiago Motta, qui a tout gagné aussi quasiment. Tu prends Alex. C'est des mecs qui arrivent quand même, quand ils arrivent dans le vestiaire, tu te dis, ah ouais. Mais ils ont fait tous les problèmes. T'es obligé d'écouter tous leurs conseils. Aujourd'hui, le recrutement, il est fait un petit peu différemment. Je ne suis pas sûr que Neymar, ça soit quelqu'un qui va te faire progresser au quotidien, qui va aller voir le docteur, qui va dire, ouais, peut-être qu'il faut faire comme ça pour essayer de gagner les matchs. C'est un leader de terrain, technique. Voilà, il peut te faire gagner les matchs tout seul. Les autres, c'était des mecs, tu parlais avec moi, tu pouvais parler deux heures, il va te dire, pourquoi il a gagné des matchs. Je fais le bain froid, je fais ceci, je mange comme ça, le petit déjeuner, je dors tant de temps. Mais c'était des fous, nous, les regarder. Ils sont complètement malades. c'est la vérité. On n'avait pas cette mentalité-là, mais au bout d'un moment, bah, tu te dis, et moi, même moi, dans ma carrière d'après, parce que tu te retrouves dans des clubs un petit peu en dessous, Amiens pour finir notamment, tu te dis, bah, attends, le parking, c'est comme ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, mais les mecs, aux mises au vert, il faut peut-être manger comme ci, il faut peut-être. Tu vois, ça sert à tout le monde, en fait.
Tu as fait Ibra quand tu es arrivé à Amiens?
Pas à son niveau.
Il y a une grosse différence, c'est que quand Ibra est arrivé, quand l'équipe à Paris a été faite, les gens autour étaient capables d'entendre, de comprendre et de pouvoir reproduire et d'élever. Quand t'es arrivé à Amiens ou quand moi je suis arrivé à Lens ou après au Resta, tu t'essayes de faire la même chose.
C'est pas toujours évident.
Mais t'as pas le même répondant en face.
C'est pas toujours évident.
Et ça, tu peux rien y faire. Quand t'es dans un bon effectif et qu'il y a des très grands joueurs, la star te permet
matériau de base qui soit déjà...
Et aussi l'effectif permet à la star d'être encore plus haute.
Mais est-ce que toi, par exemple, tu t'es surpris à élever ton niveau, à te dire, bah, en fait, je peux suivre.
Je vais te donner un exemple. Parce qu'en plus, il y a eu cette comparaison à l'époque, les Français ne bossaient pas, les étrangers bossent plus et tout. En fait, c'est pas une question de bosser plus ou pas, ou de Français, étrangers, c'est juste que nous, on n'a pas été élevés de la même façon, footballistiquement. Nous, on avait rendez-vous une demi-heure avant l'entraînement, on faisait l'entraînement, on repartait. Quand Carlo est arrivé avec son staff XXL, toutes les stars sont arrivées, et ben, au lieu d'arriver une demi-heure avant l'entraînement, t'es arrivé une heure, voire une heure et demie, et tu repartais quand t'avais fini. Moi, ça m'est arrivé de faire des journées où j'arrivais à 9h au camp des loges, et je repartais à 15h30, 16h pour aller chercher le petit à l'école. Ça, jamais de ma vie, j'aurais pensé rester autant de temps au centre d'entraînement. Mais parce que finalement, quand t'as envie de progresser, et ben, les séances, c'est une chose, mais l'avant, l'après, les soins, ce que tu manges, tout ce qu'il y a autour, ce que tu peux faire en muscu et tout ça, ça prend un temps énorme, mais ça te permet de te sentir tellement mieux sur le terrain, d'encaisser des séances physiques plus facilement, d'être meilleur sur tes appuis, enfin meilleur sur tout. Et moi, je me suis jamais senti aussi bon que lorsque j'étais à Paris, alors que j'étais remplaçant. Mais dans le boulot, j'ai découvert un autre monde, j'ai découvert un autre métier et je me suis régalé à apprendre et à progresser là-dedans.
Le détonateur, c'est vraiment Ibra ou il y a Carlo? Parce qu'après ça,
il y a Carlo quand même. Quand tu passes du staff Comboiré où ils sont 4, où Carlo arrive et tu te retrouves à 15, tu sais, quand t'as un préparateur physique et que d'un coup t'en as 6, bah, t'es pas sur la liste d'attente parce que tu veux faire du travail supplémentaire. T'auras toujours quelqu'un à ta disposition pour bosser. Les mecs viennent te chercher. Enfin, c'est un autre monde, c'est un autre métier, mais tu te rends compte que c'est eux qui sont dans le vrai. Sauf que nous, à l'époque, on connaissait pas ça. On n'a pas été élevés comme ça. Et quand tu rentres là-dedans, tous les Français qui sont restés à ce moment-là et qui ont bossé avec, tout le monde s'est régalé.
Merci beaucoup à tous les trois, à tous les cinq même. On a passé une heure passionnante. On va s'arrêter là. On va souhaiter que tes amis Lensois fassent le boulot.
Ah bah j'espère.
Et que Paris fasse le boulot également.
Surtout.
Il y a quand même un petit doute. Hein, comment la décompression après ces grandes émotions en Ligue des Champions, il ne faudrait pas que le championnat passe à la trappe au retour parce que il ne s'agit pas de laisser échapper des points. Donc merci Mathieu Bodmer, merci Nicolas Duchesse, merci Mathieu Faure d'être passé par le virage. Quand tu reviens par à Montreuil, tu fais signe et puis
pas de soucis.
Toujours une place. T'as ton rond de serviette là, à côté du micro. Merci Xavier et Mathieu. Bah nous on va se revoir hein, puis avec la bande habituelle de virage, j'espère très vite ouais. et qu'on ne laissera pas aussi longtemps entre les deux avant la prochaine émission. Pronostic pour finir sur le générique, Paris champion. Vous le sentez comment là?
Moi, gros silence. Donc je vais dire oui, mais je vais faire comme Mathieu l'a dit tout à l'heure, je vais jeter la pièce. J'espère qu'elle tombera du bon côté. Mais ça va se faire ce week-end. Hein.
C'est ce week-end que ça se joue.
Il y a des chances que ça joue ce week-end.
Déjà assurer la deuxième place, ouais. Très important.
L'accession directe en Ligue des Champions, puis il y a aussi une petite Coupe de France quand même.
Quand même, oui, c'est le trophée maison. C'est
ouais, ouais, on l'a pas déjà gagné.
Je crois qu'elle appartient à Paris, cette Coupe de France.
Après, on a discuté un peu avec Mathieu juste avant de venir à l'émission. On est prêt à revenir au PSG pour filer un coup de main pour ce qui est Coupe de France, championnat. On connaît un peu le truc.
On y va, on prend.
Puisque c'est la minute commerciale, j'en profite pour vous parler de la dernière production Virage. C'est un livre. Il est signé Grégory Proch. La quatrième de couve et de Jérôme Bréjas, vous voyez qu'on est en famille, ça sort chez Solar Edition, ça s'appelle Numéro 10, et c'est donc les plus grands meneurs de jeu parisiens en couverture. On retrouve Susic, on retrouve Braille, on retrouve Pastore, Neymar,
Bodmer, non.
Mais il manque Mathieu Bodmer.
Il manque Mathieu Bodmer, il y a Ronaldinho.
Non, non, là c'est des vrais joueurs de foot ça.
Ah, le modeste.
Merci à tous, on se retrouve très vite. D'ici là, lisez Virage, supportez Paris, et puis...
On espère.
Merci.
Des bises.
Ciao.
Ciao.
Ciao.